Mesdames, Messieurs, mes premiers mots seront pour remercier Yves Bonnefoy et Antoine Compagnon qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à vous entretenir de Paul Celan. Mon parcours à travers l'œuvre de celui-ci visera à la fois à mettre en évidence ce que je crois les fondements de sa poétique et à donner une première idée du développement de celle-ci. Je consacrerai la leçon d'aujourd'hui à tenter de cerner ce que son discours de réception du prix Büchner nomme Das Gegenwort, la contre-parole. La semaine prochaine, j'aborderai le complément de cette contre-parole que je situe dans l'interpellation de l'interlocuteur, du « doux », du « tu » ou du « toi ». La troisième heure, dans 15 jours, sera consacrée à l'évolution de sa poésie depuis ses débuts et jusqu'à la Niemandsrose, et notamment au sens qu'on peut trouver à ce qu'il a lui-même qualifié de « Engführung », de « Streit », c'est-à-dire le processus de réduction, voire d'ascèse, auquel il décida de soumettre son langage, tandis que dans ma dernière leçon, je tenterai de comprendre les conséquences de l'affaire Goll, ainsi que le tournant de Atemwende et des recueils ultérieurs. Il va de soi que vouloir traverser une œuvre poétique aussi considérable en quatre petites heures ne peut espérer, au mieux, qu'esquisser ce que pourrait ou devrait être une analyse qui saurait lui rendre justice. La tâche est d'autant plus ardue que les études célaniennes ont pris ces dernières années une telle ampleur que l'interprète, soucieux d'honnêteté, doit tout ensemble se situer avec précision dans le concert critique et rendre leur dû à tous ceux qui ont accru sa connaissance ou sa compréhension de l'œuvre. Les éditions critiques et commentées des recueils, notamment la Tübinger Ausgabe, les correspondances de plus en plus nombreuses dont nous disposons, ont augmenté de façon considérable la masse d'informations dont nous disposons pour aborder ces poèmes. De plus en plus de témoignages sont venus enrichir la connaissance qu'on peut avoir des circonstances dans lesquelles tel ou tel poème est né. La bibliothèque du poète, les annotations dont il a marqué ses lectures, parfois de la façon la plus précise, datant ses lectures et inscrivant dans les marges des références à ses propres vers, tout cela nous est désormais disponible, comme aussi bien la documentation complète relative à la très cruelle épreuve que fut pour lui, après la Shoah, l'infamie de l'affaire Goll. Dans un autre domaine aussi, notre information s'est enrichie. La Bukovine, son lieu d'origine, n'est plus aujourd'hui cette, je cite, « ancienne province de la monarchie des Habsbourg, tombée maintenant dans l'oubli, diese nun der Geschichtslosigkeit, anheimgefallene, ehemalige Provinz der Habsburger Monarchie », comme Celan pouvait encore le constater en 1958, en recevant le prix de littérature de la ville de Brême. Non seulement les autres poètes juifs d'expression allemande de cette contrée, Rose Ausländer, Alfred Margul Sperber, Alfred Kittner, Moses Rosenkranz, Immanuel Weissglas, ont fait l'objet de publications et d'études, parfois même traduites en français, mais encore les mémoires ou les témoignages des rescapés de Tchernovitch, ainsi que les travaux des historiens israéliens ou allemands sur la situation des Juifs de la Bukovine se sont-ils multipliés. Par ailleurs, de même que durant les années 1950-1970, les meilleurs esprits de la germanistique se penchaient sur Hölderlin, de même, Celan est-il passé au centre de l'attention de tous ceux qui sont requis par une lecture sérieuse de la poésie. Le lecteur, désireux d'aller à la rencontre de Paul Celan, voit à sa disposition une information de plus en plus détaillée. Ce savoir historique est indispensable, et risible serait celui qui n'en tiendrait pas compte. Il n'en demeure pas moins qu'aborder un poème, un seul poème de ce poète, demande une vigilance et une disponibilité fondées non point tant dans les informations qu'on peut réunir sur son contexte, que dans la prise en compte des modes propres de ce que Jean Bollack nomme, à raison à mon sens, l'idiome célanien. Ce n'est pas le donné référentiel qui peut expliquer le poème, c'est au contraire le poème qui éclaire la référence à laquelle il donne ou construit un sens. Telle est la radicalité de l'exigence poétique célanienne, qu'elle se soumet, qu'elle ne peut que se soumettre tout ce dont elle s'empare. La langue des poèmes de Paul Celan est bien sûr cette langue allemande que sa mère lui apprit et lui apprit à aimer à Tchernovitch. Mais elle est aussi et d'un même tenant une langue que chacun de ses lecteurs, fût-il le meilleur des germanophones, doit apprendre presque à la manière d'une langue nouvelle, tant elle soumet les conventions du parler commun aux contraintes de son propre projet. On fera peut-être valoir que cela est vrai d'autres poètes aussi, que lire Rimbaud ou Mallarmé, Tracle ou Rilke, Joyce ou Beckett n'implique pas un effort moindre. J'en conviendrai d'autant plus volontiers que c'est bien à cette hauteur qu'il convient de situer ses œuvres, cette œuvre, aussi bien que l'effort nécessaire pour s'en approcher. On comprendra donc que ma perspective pendant ces quatre leçons sera pour une grande part immanente. J'essaierai de comprendre Celan à partir de lui-même, en essayant de mettre au jour la logique poétique qui articule sa diction et ses poèmes. Par là, je renoncerai du même coup à essayer de le situer dans une perspective plus large, telle que sa place dans la poésie européenne d'après-guerre ou celle parmi les écrivains de la Shoah. Il me suffira de poser, dès à présent, que de toute manière, je ne connais aucune œuvre qui me paraisse plus importante que la sienne. Mon point de départ, aujourd'hui, sera donc une expression empruntée au Méridien, le discours prononcé le 22 octobre 1960 à la réception du prix Büchner, discours auquel du reste lui-même avait coutume de renvoyer ceux qui l'interrogeaient sur le sens de sa poésie. Celan aborde son propos en évoquant la première pièce de Büchner, Danton's Tod, la mort de Danton, et notamment le débat qui mène sur la notion de Kunst, d'art, les personnages qui vont bientôt monter sur l'échafaud, Danton, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine. Évocation qui va lui permettre d'opposer à l'abondance rhétorique de ses orateurs, portant personnages historiques d'une parfaite dignité, une figure et un cri. La figure, c'est celle de Lucille, l'épouse de Desmoulins. Lucille est introduite de la manière suivante. Aber es gibt, wenn von der Kunst die Rede ist, auch wieder jemand, der zugegen ist, und nicht richtig hinhört. Genauer, jemand, der hört und lauscht und schaut und dann nicht weiß, wovon die Rede war, der aber den Sprechenden hört, der ihn sprechen sieht, der Sprache wahrgenommen hat und Gestalt und zugleich auch, wer möchte hier im Bereich dieser Dichtung daran zweifeln. Und zugleich auch Atem, das heißt Richtung und Schicksal. Mais il y a toujours, lorsqu'il est question d'art, quelqu'un qui est présent et qui n'écoute pas bien. Plus exactement, quelqu'un qui entend et qui prête l'oreille et regarde et qui ensuite ne sait pas de quoi il a été question. Quelqu'un, toutefois, qui entend celui qui parle, qui le voit parler, qui a perçu sa parole et sa figure, et aussi, qui pourrait en douter à propos de cette œuvre, son souffle, c'est-à-dire une direction et un destin. Lucille se distingue de ceux qui parlent par son rapport au langage. Loin de s'effacer dans sa fonction sémantique ou sa fonction communicative, celle-ci lui apparaît au contraire comme une substance, comme un être propre, indissociablement lié à celui qui le profère. Ce qu'elle perçoit, en d'autres termes, c'est moins le langage que l'acte de parler, acte que le texte assimile à la perception simultanée d'une figure, gestalt, et d'un souffle, atem, qui est traduit aussitôt par les termes de direction, Richtung, et destin, Schicksal. Le langage est une figure et un souffle, par là une direction et un destin. Ainsi sera-t-il question, plus avant dans ce discours, du poème de celui qui n'oublie pas, je cite, qu'il parle sous l'angle d'inclinaison de son existence, l'angle d'inclinaison de sa nature de créature. Lucille, vous l'aurez pressenti, est la figure d'un être dont le rapport au langage est celui d'un poète. Ce rapport est à la fois plus personnel, plus individuel et plus littéral que celui des autres, puisqu'il est indissociable de ce qu'on pourrait nommer sa dimension de présence. Or, cette Lucille est aussi celle qui, restée seule au pied de l'échafaud où son époux et ses amis ont été guillotinés, ce sont presque les derniers mots de la pièce, s'écrie à la vue d'une patrouille qui débarque sur la place et d'une manière qui lui vaut d'être immédiatement arrêtée, « Vive le roi !» Voici le commentaire que le Méridien ajoute à ce cri. « Nach allen auf der Tribüne, es ist das Blutgerüst gesprochenen Worten, welch ein Wort! Es ist das Gegenwort, es ist das Wort, das den Draht zerreißt, das Wort, das sich nicht mehr vor den Ecksteherern und Paradegäulen der Geschichte bückt. Es ist ein Akt der Freiheit, es ist ein Schritt. Gewiss, es hört sich, und das mag im Hinblick auf das, was ich jetzt, also heute, davon zu sagen wage, kein Zufall sein, es hört sich zunächst wie ein Bekenntnis zum Ancien Regime an. Aber hier wird, erlauben Sie einem, auch mit den Schriften Peter Kropotkins und Gustav Landauers Aufgewachsenen, dies ausdrücklich hervorzuheben. Hier wird keiner Monarchie und keinem zu konservierenden Gestern gehuldigt. Gehuldigt wird hier der für die Gegenwart des menschlichen zeugenden Majestät des Absurden. Das, meine Damen und Herren, hat keinen ein für allemal feststehenden Namen. Aber ich glaube, es ist die Dichtung. Après toutes les paroles prononcées à la tribune, il s'agit de l'échafaud sanglant. Quelle parole ! C'est la contre-parole, la parole qui rompt le fil de fer, la parole qui cesse de se courber devant les badauds et les chevaux de parade de l'histoire. C'est un acte de liberté, c'est un pas. Certes, cela s'entend, et peut-être au regard de ce que je puis avoir à en dire maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas là un hasard, certes, cela semble d'abord s'entendre comme une prise de position en faveur de l'Ancien Régime. Permettez toutefois à quelqu'un qui a grandi avec les écrits de Pierre Kropotkin et de Gustav Landauer de le déclarer nettement. Nulle allégeance n'est faite ici à une quelconque monarchie, ni à quelque passé désuet qu'il s'agirait de conserver. Ce à quoi il les fait allégeance ici, c'est à cette majesté de l'absurde qui témoigne de la présence de l'humain. Cela, mesdames et messieurs, n'a pas un nom fixé une fois pour toutes. Mais je crois que c'est la poésie. La contre-parole de Lucile, celle pour qui le langage est souffle, c'est-à-dire direction et destin, cette contre-parole qui, elle le sait, lui vaudra la mort, cette parole qui se comprend comme allégeance à telle majesté de l'absurde qui est, selon ce texte, le signe sous lequel est placée l'existence humaine, Celan l'a dit un acte de liberté, l'a dit un pas qui serait celui-là même de la poésie. Le défi que Lucile, la femme de Camille Desmoulins, le régicide, lance à une république dont elle a déjà percé à jour la tyrannie potentielle incarnée dans la pièce par la figure de Robespierre, cette antiphrase suicidaire révélerait dans sa majesté propre la nature profonde d'une parole poétique court-circuitant les mensonges d'une rhétorique de l'art dont les révolutionnaires eux-mêmes n'auraient pas su se déprendre. Comme le suggère la référence à Kropotkin et à Landauer, la révolte anarchiste de la parole devient son critère de vérité. Le nom, porté à la puissance d'une négation qui se paye au prix de la vie, devient le mode paradoxal sur lequel une parole parvient encore à s'affirmer. Au commencement est le nom. Sauf que ce commencement n'est pas un commencement. En s'écriant « Vive le roi !», Lucile n'exprime nullement ses convictions. Elle tourne contre elle-même une logique née de la mise à mort absurde des partisans d'une république fondée sur la liberté et condamnée au nom même de ce désir de liberté. La majesté de l'absurde à laquelle elle fait allégeance est celle de la contradiction très précise d'une histoire parvenue au point où, selon la formule de Büchner, la révolution est comme Saturne. Elle dévore ses propres enfants. Qu'elle devienne la figure allégorique de la poésie pour Celan se comprend sans doute à partir d'une contradiction analogue. Ce n'est pas la révolution qui, pour lui, dévore ou a dévoré ses enfants. c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ou ce qui n'a pas moins d'importance sur son statut de poète, la langue, voire la poésie allemande. La contre-parole de Ceylan sera d'abord adressée à la langue dans laquelle il écrit. La question qui se pose est la question de la possibilité et celle de la légitimité de continuer à écrire dans cette langue. Un poème adressé en 1944 à sa mère assassinée durant l'hiver 1942-43, Nähet a Gräber, proximité des tombes, le formule de la manière la plus directe dans son distique final. Unduldest du, Mutter, wie einst, ach daheim, den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim? Et tolères-tu encore, comme jadis chez nous, ô mère, la rime douce, la rime allemande, la rime amère? Pour bien saisir l'enjeu de cette question, un peu d'histoire est nécessaire. Il importe de se rappeler que pour les Juifs de la Bukovine, la langue allemande avait été associée depuis mars 1849 à une constitution qui leur accordait les mêmes droits que tous les autres citoyens de l'Empire austro-hongrois. La figure bienveillante de l'empereur François-Joseph Ier était si vénérée dans la communauté juive dans laquelle Ceylan est né qu'il n'était pas rare, comme le raconte Edith Silbermann, qu'une bougie soit allumée, même après sa mort en 1916, en commémoration de son jour de naissance. L'émancipation des Juifs était ainsi liée à une langue devenue pour eux la langue de la liberté. La cession de la Bukovine à la Roumanie, lors du traité de paix de Saint-Germain-en-Laye en 1919, ne fit que renforcer le prix de cette langue, désormais menacée par le nationalisme étroit et répressif de Bucarest, soucieux de réprimer les minorités linguistiques et notamment la minorité juive. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que Friederike Schrager, la mère de Paul, cette mère à qui une scolarité précocement interrompue avait laissé le désir de compléter sa formation culturelle, notamment par la lecture des classiques allemands vers lesquels apportait une affection naturelle, ait insisté pour que la langue employée dans la famille Hanschel ait été le bon allemand. Là où le père, Léo Hanschel, porté par ses convictions sionistes, penchait vers l'hébreu, qu'il obligea son fils d'apprendre en l'envoyant entre 7 et 10 ans à l'école populaire hébraïque Safa Ivria, Friedrich participait avec enthousiasme à ce mouvement plus général de la Haskalah, du mouvement juif des Lumières et de l'Assimilation, auquel le choix de l'allemand était indissociablement lié. Tous les témoignages recueillis sur l'enfance de Paul font état de l'amour réciproque et sans réserve qui le reliait à sa mère, et par là même à la langue allemande dans laquelle cette mère trouvait un objet de prédilection et d'identité que le goût de la littérature qu'elle enseigna à son fils ne fit qu'exalter. On comprend dès lors la contradiction tragique dans laquelle Ceylan se retrouvait au moment où il composait le distique susmentionné. C'est à lui-même que Ceylan pose la question, la posant à sa mère. La langue, ou plus précisément la rime allemande, cette rime à la fois douce, leise et douloureuse, schmerzlich, peut-elle encore être soufferte comme elle le fut autrefois, ach daheim, dans ce daheim, dans la douceur de ce foyer, pour parler comme Baudelaire, qui n'est plus et ne sera jamais plus. 14 années plus tard, dans son discours prononcé lors de la réception du prix de littérature de la ville de Brême, il formulera la réponse théorique à cette question. Erreichbar, nah und unverloren blieb inmitten der Verluste dies eine, die Sprache. Sie, die Sprache blieb unverloren, ja, trotz allem. Aber sie musste nun hindurchgehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend Finsternisse todbringender Rede. Sie ging hindurch und gab keine Worte her für das, was geschah. Aber sie ging durch dieses Geschehen, ging hindurch und durfte wieder zutage treten, angereichert, von Andem. Accessible, proche et sauvegardée au milieu de tant de pertes, ne demeura que ceci, la langue. Elle, la langue, fut sauvegardée, oui, malgré tout. Mais elle dut alors traverser son propre manque de réponse, dut traverser un mutisme effroyable, traverser les mille ténèbres des discours porteurs de mort. Elle traversa et ne trouva pas de mots pour ce qui se passait. Mais elle traversa ce passage et put enfin ressurgir au jour, enrichie de tout cela. La contre-parole est donc la parole poétique de celui qui, ayant à écrire dans la langue de ceux qui assassinèrent ses parents et son peuple, dans cette langue que les mille ténèbres des discours porteurs de mort ont assombri de manière indélébile, doit en même temps se réapproprier cette langue sous le double signe d'une intégrité poétique reconquise et d'une identité juive réaffirmée. La contre-parole est, la contre-parole ne peut être qu'un geste de renversement. Il est essentiel de saisir l'amplitude de ce renversement. Le même discours du Méridien en suggère un autre exemple. Commentant la nouvelle de Büchner intitulée « Lenz », qui retrace quelques épisodes de l'existence tourmentée de l'écrivain Jakob Michael Reinhold Lenz, Celan s'arrête à la phrase surprenante en effet de « Nun war es ihm manchmal unangenehm, dass nicht auf dem Kopf gehen konnte. » Il lui était simplement parfois désagréable de ne pouvoir marcher sur la tête. Et il ajoute le commentaire suivant « Wer auf dem Kopf geht, meine Damen und Herren, wer auf dem Kopf geht, der hat den Himmel als Abgrund unter sich. » Qui marche sur la tête, mesdames et messieurs, qui marche sur la tête, a le ciel pour abîme sous les pieds. Il s'en faut que cette conclusion, cite Celanienne, se résume à mettre en évidence la logique paradoxale que le poète s'emploie à dégager du texte de Büchner. Cette conclusion signale en vérité le renversement métaphysique qui, pour lui, va de pair avec la notion de Gegenwart. Ce ciel dont l'abîme se creuse sous les pieds de celui qui marche sur la tête, c'est aussi le ciel du poète, d'après Auschwitz. Le discours de Brehm le disait à sa façon. Ce sont les efforts de celui qui, survolé d'étoiles, qui sont œuvres humaines, Menschenwerk, qui, exposé en ce sens jamais encore pressenti et par là effroyablement à découvert, va de tout son être ou langage, blessé de réalité et en quête de réalité. Der mit seinem Dasein zur Sprache geht, Wirklichkeitswund und Wirklichkeit suchend. On mesure déjà le chemin parcouru depuis le distique de Nähe der Gräber. Dans celui-ci, la question adressée à la mère au sujet de la rime allemande se faisait à l'intérieur même de la tradition qu'elle mettait en cause. Reim rimait avec daheim, selon la règle stricte du maître usuel d'une forme de poésie populaire. À l'époque du Méridien, ou peu après, la contre-parole aura pris une forme beaucoup plus radicale. Permettez-moi de citer à titre d'exemple un poème de la Niemannsrose, le quatrième recueil, paru en 1963. Eine Gauner und Ganovenweise, gesungen zu Paris en Prépontoise von Paul Celan aus Tschernowitsch bei Sadagura. Manchmal nur in dunklen Zeiten, Heinrich Heine an Edom. Damals, als es noch Galgen gab, da, nicht wahr, gab es an oben. Wo bleibt mein Bartwind? Wo mein Judenfleck, wo mein Bart, den du raufst? Krumm war der Weg, den ich ging, krumm war er, ja, denn, ja, er war gerade, Herr Ja. Krumm, so wird meine Nase, Nase. Und wir zogen auch nach Friaul, da hätten wir, denn es blühte der Mandelbaum. Mandelbaum, Mandelmaum, Mandeltraum, Strandelmaum und auch der Machandelbaum, Handelbaum, Heya, Aum, Envoi. Aber er bäumt sich, der Baum, er, auch er steht gegen die Pest. Un air de voleur et d'escroc, chanté à Paris en Prépontoise par Paul Celan de Tchernovitch, près de Sadagora. Parfois seulement, en des temps sombres, Henri Heine à Edom. Jadis, quand il y avait encore des gibets, jadis, pas vrai, il y avait une hauteur. Où est ma barbe, vent? Où ma tache de juif? Où ma barbe que tu arraches? Courbe était le chemin que j'allais. Courbe, oui, car, oui, il était droit. Heya, courbe, ainsi de mon nez, mon nez. Et nous allions aussi au Frioul. Là nous aurions, car l'arbre aux amandes était en fleur, l'arbre aux amandes, aux manandes, le rêve aux amandes, le verre aux manandes, et aussi l'arbre genévrier, arbre, candélabre, heya, arbre. On voit, mais il se cabre, l'arbre, lui aussi. Il se dresse contre la peste. Comme le seul titre nous l'indique déjà, ce poème est placé sous le signe du renversement paradoxal. Le syntagme « Paris en Prépontoise » est emprunté, vous l'aurez peut-être connu, au quatrain dont François Villon faisait précéder sa balade des pendus. « Je suis François, dont il me poise, né de Paris en Prépontoise, et de la corde d'une toise saura mon col que mon cul poise. » L'inversion burlesque de l'importance des villes, Paris et Pontoise, est reprise à la dernière ligne du titre, quand l'auteur, après s'être nommé, se dit de Tchernovitch, près de Sadagora. Tchernovitch était la capitale du Kronland, du domaine de la couronne austro-hongroise qu'était la Bukovine d'avant 1918, tandis que Sadagora, lieu de naissance de Friedrich Schrager, n'était qu'un gros bourg connu comme centre hassidique, situé à proximité. Le renversement carnavalesque que Celan trouvait réalisé dans certains textes de Mandelstam qu'il lisait et traduisait à l'époque est déjà bien sûr à l'œuvre chez Billon et procède du même humour noir d'une conscience pour qui la mort est, si j'ose dire, une donnée immédiate. Il en va de même de la première strophe. La hauteur, liée à l'époque des gibets, fonctionne comme une antiphrase ironique destinée à signaler sa perte contemporaine. S'il n'y a plus de gibets de nos jours, il n'y a plus non plus de hauteur, comprenons de transcendance. Comme le formulait un vers du plus célèbre des poèmes célaniens, la Todesfuge, creuser une tombe dans l'air et s'assurer de n'être pas étroit. La fumée des Juifs, brûlée dans les camps, trouve, selon le dire cynique du Capot, son lieu de repos dans les nuages. Le haut et le bas sont désormais interchangeables, comme le sont le ciel et l'absence de Dieu. Le choix du ton familier, sensible dans le « nicht wahr », dans le « pas vrai », et qui accentue l'allure burlesque du poème, confirme dialectiquement le sérieux en question. L'ironie fonctionne sur le mode dialectique, en feignant de donner au tragique l'allure d'un constat banal, ou plutôt, la seule banalité est désormais celle de la destruction. Le vent, qui faisait danser les pendus au bout de leurs cordes, arrache désormais les insignes du juif persécuté. Sa barbe et sa judenfleck, sa tache de juif, ce cercle jaune qui, au Moyen-Âge déjà, à l'époque des gibets, préfigurait l'étoile jaune, imposée dès 1941 sous le Troisième Reich. Loin de toute fonction pneumatique, ce vent n'est plus que celui de l'humiliation. Aussi bien, l'interchangeabilité des repères verticaux vaut-elle aussi pour les repères horizontaux. Le chemin suivi par le locuteur est courbe, courbe parce qu'il est droit. 3 ans avant ce poème, dans son allocution de Brême, Celan posait déjà la question « Aber gibt es das denn? Umweg? » Un détour, cela existe-t-il? Pour un cheminement de vie, la ligne courbe équivaut à la ligne droite. Le trajet de Tchernovitz à Paris n'est pas plus courbe que ne le sera le nez de celui qui parle, ou plutôt la courbure du nez de celui qui parle, la courbure de son nez de juif n'est que son mode à lui d'être droit. La contre-parole du poème coïncide, comme on le voit, avec un emploi paradoxal du langage destiné à court-circuiter les pseudo-évidences déposées dans une langue qui véhicule, sans s'en rendre compte, les mille ténèbres des discours porteurs de mort, en retournant ceux-ci contre eux-mêmes. Les clichés antisémites, les juifs au nez crochu, sont repris en charge par la langue du poème, mais pour être renversés. Le genre emprunté du poème, écrit à l'imitation d'une ballade, mobilise ses possibilités ludiques, ainsi notamment du double heya et du haum, mais c'est pour les soumettre à une toute autre finalité. Vous aurez sans doute noté que dans le cinquième groupe de vers, après la citation assez mystérieuse, il faut le dire, des deux vers d'une chanson populaire du XVIe siècle, Und wir zogen auch nach Friaul, da hätten wir, le poème va s'engager dans une série de variations sur le mot Mandelbaum. Ces variations permettent d'observer dans le détail le travail de Celan sur la langue. Mandelbaum se dit en français l'amandier. Le mot allemand est un mot composé. Mandel, c'est l'amande, Baum, l'arbre. On peut donc traduire « l'arbre aux amandes ». Il le faut même, d'une certaine façon, de manière à permettre au signifiant « Mandel » de raisonner pleinement. En effet, « Mandel » est un mot clé de la poésie de Paul Celan. On le trouve ainsi dans le dernier poème du premier recueil, « Mon und Gedächtnis, Zähle die Mandeln »,« Compte les amandes », où il devient, comme Peter Horst Neumann l'avait noté autrefois, le chiffre de l'œil des Juifs, et notamment des Juifs assassinés. Les deux vers conclusifs de ce poème, « Mache mich bitte, zähle mich zu den Mandeln, rends-moi amer, compte-moi au nombre des amandes », ils deviennent ainsi l'expression poignante de la mélancolie du poète survivant, s'adressant à travers l'interlocuteur qui l'interpelle au peuple de ceux à qui il a survécu et auxquels il demande de l'assimiler à eux. Ailleurs, est-il question de Das Mantelauge des Toten, l'œil en amande du mort. On le retrouve dans la section suivante de la Niemannsrose et dans un poème intitulé Mandorla. Que Celan ait en quelque sorte thématisé l'amande comme le chiffre de l'œil du juif ou de la juive, une note préparatoire au méridien nous permet de le comprendre. Cette note dit ceci : Celui qui ne pleure la perte que de la belle aux yeux d'amande, celui-là la tue aussi, cette belle, une seconde fois, en la plongeant dans l'oubli. Ce n'est que si tu portes ta douleur la plus intime vers les morts au nez crochu, bossus et bredouillants de Treblinka, d'Auschwitz et d'ailleurs, que tu rencontreras aussi l'œil et son amande. La remarque a valeur d'auto-admonestation. Si la poésie a pour fonction de rappeler la mémoire des morts, elle ne rendra justice à ceux-ci qu'à la condition de reconnaître que de les reconnaître dans la nature désidéalisée de ce qu'ils furent de leur vivant. La Niemannsrose, dans laquelle figure donc tant eine Gauner- und Ganovenweise que Mandorla, est dédiée à Ossip Mandelstam, ou plus exactement, dem Andenken Ossip Mandelstams, à la mémoire d'Ossip Mandelstam. Ici, un détail importe. Celan, contrairement à l'usage, écrit Mandelstam avec deux M à la fin. Ce faisant, il remotive sémantiquement le patronyme. En allemand, Stamm, avec deux M, a le sens aussi bien de tronc que de souche lignée. Mandelstam, c'est donc aussi la souche ou le peuple des amandes. Ainsi, Die Niemannsrose se voit-elle dédiée à travers son destinataire particulier, poète juif mort déporté en Sibérie, à la mémoire de tous les autres juifs assassinés. Doutât-on de la pertinence du rapprochement entre le Mandelbaum de notre poème et la figure du poète russe que Celan traduisit en allemand et auquel il dédie l'ensemble du recueil, qu'il suffirait pour dissiper toute incertitude de se reporter au passage d'un poème de la dernière section de celui-ci, le poème « Tout est autre que tu n'imagines », où l'on trouve l'extraordinaire identification que voici. « Dein Name, Ossip, kommt auf dich zu. Du erzählst ihm, was schon weiß. Er nimmt es dir ab, mit Händen. Du löst ihm den Arm von der Schulter, den rechten, den linken. Du heftest die deinen an ihre Stelle, mit Händen, mit Fingern, mit Linien. Das Abriss wächst wieder zusammen. Da hast du sie, da nimm sie dir. Da hast du alle beide, den Namen, die Hand. Da nimm sie dir zum Unterpfand. Er nimmt auch das, und du hast wieder, was dein ist, was sein war. Le nom d'Ossip vient à toi. Tu lui racontes ce qu'il sait déjà. Il le prend, il te le prend à décharge, avec des mains. Tu lui détaches le bras de l'épaule, le bras droit, le gauche. Tu rives les tiens à leur place, avec des mains, avec des doigts, avec des lignes. Ce qui se déchira se suture à nouveau. Les voilà à toi, prends-les à toi, tous les deux sont à toi. Le nom, la main, prends les engages, il le prend aussi et tu as de nouveau ce qui est tien, qui fut sien. Il paraît difficile, sur la base de ces rapprochements, de douter de la proximité de Mandelbaum et de Mandelstam. Revenons donc à notre poème. À peine a-t-il été affirmé que l'arbre aux amandes était en fleur, que le mot qui le désigne, Mandelbaum, subit un traitement étrange. Mandelbaum, Mandelbaum. Le phénomène qui consiste en la permutation des consonnes initiales de deux parties d'un mot composé est connu sous le nom de métathèse. Le goût de Paul Celan pour de tels jeux de langue est ancien. N'a-t-il pas soumis son propre nom à un jeu semblable ? Paul Celan est né Paul Anchel. Ce n'est qu'en 1947, à Bucarest, qu'à l'occasion de la publication de trois de ses poèmes dans la revue Dion Carayon Agora, qu'il signe Paul Celan. Cette inversion anagrammatique avait été préparée par le fait que, l'année précédente, il avait fait paraître sa traduction en roumain d'un roman russe de Mikhail Lermontov sous le nom roumanisé de Paul Ancel, A-N-C-E-L. La raison d'une telle modification est évidente. Ancel, A-N-T-S-C-H-E-L, était clairement un nom juif. L'antisémitisme régnant à Bucarest motivait sans plus le changement. D'Ancel à Celan, il n'y avait dès lors qu'un pas. En permutant les deux syllabes, le poète pouvait espérer échapper à l'hostilité ambiante. En même temps, il inscrivait dans ce nouveau nom la contradiction, ou si l'on préfère, la contre-parole à laquelle il était contraint. En même temps, le recours à l'anagramme traduisait un penchant ludique qui, lui, n'avait rien de contraint. En arrivant à Bucarest au printemps 1945, Paul Celan allait trouver un milieu d'amis et de poètes, inspirés notamment par le surréalisme, qui lui permettrait de connaître deux années restées parmi les plus heureuses de son existence, deux années durant lesquelles il put s'adonner librement à des jeux de langage de ce type. Comme il l'écrira peu après son départ à Petr Solomon, qui resta son ami et dont le livre en rapporte plusieurs exemples, ce fut là pour lui la belle saison des calembours. Il n'en reste pas moins que lorsque, au moment de la Niemandsrose, Celan reprend le phénomène de la métathèse et des calembours, c'est dans un tout autre sens. Si Mandelbaum est l'arbre ou la lignée des amandes, Mandelbaum est la négation, la décapitation de ceux-ci. La permutation burlesque des consonnes, tout en déférente en apparence à ce qu'on nomme en anglais « nonsense poetry », traduit sur le plan de la lettre la blessure infligée à l'arbre juif, ou si l'on préfère, au peuple juif. Il n'en va pas autrement de l'unité suivante. Mandeltraum, Trandelmaum. Traum, c'est rêve. Mandeltraum, c'est le rêve d'amande ou des amandes. Ce rêve est lui aussi nié par Métatès dans son renversement. Le rêve d'Amante en fleurs est réduit au non-sens d'un Trandelmaum, qui, bien entendu, constitue le travestissement phonétique de ce rêve. Il n'est peut-être pas indifférent de noter à ce propos que la poésie de Paul Celan, bien qu'elle ait trouvé une inspiration momentanée dans le milieu surréaliste de Bucarest, n'a cessé de contester sa place au rêve. Loin de s'offrir comme source ou comme réserve d'image, celui-ci voit en quelque sorte sa possibilité même battue en brèche, comme si la violence nazie avait étendu son emprise jusque sur l'ultime intimité psychique de ses victimes. Ainsi, un poème du premier recueil, Mon und Gedächtnis, disait-il déjà « So blieb uns zu spinnen die neue, die rötliche Wolle des Schlafs an der sandigen Grabstadt des Traumes. » Ainsi, nous resta-t-il à filer la nouvelle laine rouge du sommeil sur la tombe sablonneuse du rêve. Il n'y a pas de poétique du rêve chez Celan. La lucidité de sa poésie a toujours les yeux ouverts, non par choix ou par aversion pour le rêve, mais par nécessité, et si j'ose dire, nécessité historique. De Trandelmaum, le poème passe ensuite, toujours sous l'égide de la rime ou de la paronomase, à « und auch der Machandelbaum ». Machandelbaum est un mot d'Allemagne du Nord qui signifie « le genévrier ». On se souvient peut-être qu'il existe un conte très violent des frères Grimm, von dem Machandelbaum, le conte du genévrier, qui raconte l'infanticide d'une marâtre jalouse du fils du premier mariage de son mari. Au risque de paraître forcer le sens, je suggérerais que dans ce poème où le français joue de manière explicite un rôle, on peut lire le signifiant « Machandelbaum » aussi comme « Machandelbaum », l'arbre de ma chandelle ou l'arbre chandelier, comme semble du reste le confirmer le néologisme Chandelbaum du vers suivant. L'arbre chandelier, cela appelle de manière quasi nécessaire la menorah, le chandelier à sept branches qu'on allume au soir du Shabbat. Cette menorah, si c'est bien elle, est, comme on le voit, ramenée à ses composantes verbales élémentaires, selon un processus de reformulation, de recomposition de la langue, qu'il nous conviendra d'analyser pour lui-même plus tard, et qui trouve dans la syllabe « aum » sa plus petite unité. Pendant presque 2 ans, si l'on en croit les manuscrits que Celan avait pris l'habitude de dater, cette syllabe « aum » constituait le dernier mot du poème. L'ajout de « l'envoi », s'il est conforme au genre d'une ballade villonesque, n'est donc intervenu que dans un second temps. Second temps, qui, comme nous allons le voir, est pourtant ce qui seul donne tout son sens au premier. La tonalité paradoxale, voire bouffonnante du texte, ne dissimule qu'imparfaitement la douleur qui le sous-tend. Du gibet à la tache de juif, de la courbure du chemin à celle du nez, de l'amandier à son travestissement phonétique, c'est bien la réalité des camps d'extermination qui constitue l'arrière-plan de ce poème. Peut-être est-ce le moment de rappeler que l'épigraphe emprunté à Heinrich Heine, parfois seulement en des temps sombres, vient d'un poème dans lequel cet autre juif exilé à Paris évoque le douloureux dialogue millénaire entre les juifs et l'Allemagne à l'occasion d'un fragment de récit nommé « Der Rabbi von Bacharach », le rabbi de Bacharach, qui retrace l'histoire d'une communauté juive et des persécutions qu'elle a à subir. La contre-parole s'origine dans la mort, mais, tel est ce qu'il importe de souligner maintenant, cette origine est aussi ce qui va lui donner sa force. L'arbre, le baum, dont du gibet à l'amandier et à l'arbre chandelier, la substance a nourri tous les mots du texte, cet arbre, symbole de ce que les Juifs ont eu à subir, va désormais se retourner, ou pour mieux dire, se redresser dans ce qui est clairement un geste de défi. Aber, erbäumt sich der Baum, auch er steht gegen die Pest. Mais il se cabre, l'arbre, lui Lui aussi, il se dresse contre la peste. Jouant sur la figure étymologique entre Baum, l'arbre, et le verbe sich bäumen, s'opposer, ou comme Martin Broda l'avait ingénieusement traduit dans sa version de ce poème, se cabrer, ainsi que sur la répétition, le poème trouve dans la réduplication et l'identique le mode formel d'une opposition. Le fait que, dans l'envoi, les mots se répètent leur prête un effet qui redonne à l'arbre une fonction de résistance. Résistance qui plus est contre cette peste, si souvent invoquée au Moyen-Âge comme prétexte au pogrom contre les Juifs. Cette fois, c'est le Mandelbaum, l'arbre juif, qui se dresse contre cette peste d'une autre nature, dont Albert Camus venait d'écrire l'histoire allégorique dans son célèbre roman. Le Gegenwort, la contre-parole, est donc une parole de résistance, née sur le sol d'une expérience de la destruction dont la langue doit en même temps rendre compte. Elle naît de l'ambiguïté du statut de cette langue, qui est à la fois celle de la mort et celle de la survie. Il s'en faut toutefois que cette ambiguïté se limite pour Tselan au statut de la langue comprise comme moyen de résistance à la barbarie. Si le poème se dresse comme un arbre, ce n'est pas seulement contre l'ennemi, contre la peste. Son auto-délimitation s'effectue aussi bien par rapport au judaïsme dont il est issu. La différence, autrement dit, ne s'affirme pas contre le seul autre. Elle est aussi bien tournée vers ou contre le même. Comme les témoignages de ses lectures et de ses amis l'attestent, la pensée de Tselan se préoccupe de plus en plus, dès le milieu des années 1950, de son judaïsme. Ce sont durant ces années qu'il découvre, outre l'Encyclopédia Judaica, les écrits de Martin Buber, Franz Rosenzweig, Margarete Sussmann, Oscar Goldberg ou Gershon Scholem. Rien d'étonnant dans ces conditions que la Niemanns Rose soit le recueil qui thématise le fait juif de la façon la plus explicite. Thématiser ne coïncide toutefois pas avec adhérer. Le propre de la position tselanienne est que sa nature de contre-parole se vérifie aussi à ce propos de son appartenance juive. Deux poèmes vont nous permettre de le préciser. Le premier est tiré de Sprachgitter, Grille de parole, le recueil d'avant la Niemanns Rose, qui parut en 1959. Ce poème est intitulé Ténébré. Ténébré. Nahe sind wir, Herr, nahe und greifbar. Gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als wär der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Bete, Herr, bete zu uns, wir sind nah. Windschief gingen wir hin, gingen wir hin, uns zu bücken nach Mulde und Mar. Zur Tränke gingen wir, Herr, es war Blut, es war, was du vergossen, Herr. Es glänzte, es warf uns dein Bild in die Augen, Herr. Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr. Wir haben getrunken, Herr, das Blut und das Bild, das im Blut war. Herr, bete, Herr, wir sind nah. Ténébré. Nous sommes proches, Seigneur, proches et saisissables. Déjà saisis, Seigneur, engriffés l'un dans l'autre, comme si la chair d'un chacun de nous était ta chair, Seigneur. Prie, Seigneur, prie-nous, nous sommes proches. Nous allions incliner, nous allions nous courber au creux des cratères, nous allions à l'abreuvoir, Seigneur. C'était du sang, c'était ce que tu as répandu, Seigneur. Ça brillait, ça nous jetait ton image aux yeux, Seigneur. Yeux et bouches sont si béants, sont si vides, Seigneur. Nous avons bu, Seigneur, le sang et l'image qui était dans le sang, Seigneur. Prie, Seigneur, nous sommes proches. Le scandale de cette parodie de prière et que celle-ci est prononcée par les morts de Treblinka, d'Auschwitz et d'ailleurs, et qu'au lieu d'être la prière des hommes à leur Dieu, elle est l'exhortation à ce Dieu, à ce Seigneur, de les invoquer. Le retournement est multiple. Il est d'abord comme on le voit théologique, ce qu'indique aussi le titre latin emprunté à la Vulgate. A sexta autem hora tenebrae facte sunt super universam terram usque ad horam nonam. De la sixième heure à la neuvième, des ténèbres s'étendirent sur toute la terre. Matthieu 27, 45. Ce n'est pas toutefois le Christ, le Sauveur, dont les ténèbres consacrent la mort dans ce poème. Ce sont les Juifs des chambres à gaz, dont les corps entassés témoignent, selon des témoignages que Tselan a pu lire, de leurs efforts désespérés pour échapper à la mort, en grimpant sur les corps de ceux que le cyclone B avait déjà tués. Le cyclone B est un gaz qui commence par agir au niveau du sol. Inananda verkrallt, engriffés l'un dans l'autre, dans une communion macabre que le poème présente comme une parodie de l'hostie, comme si la chair d'un chacun d'entre nous était ta chair, Seigneur. Il devient dès lors presque logique que l'exhortation à la prière concerne ce Seigneur qui a laissé mourir les siens alors que ceux-ci ont bu le sang qu'il leur avait prescrit de boire. L'accusation implicite est d'autant plus forte quand on s'avise que ce sang n'est pas celui du Seigneur lui-même, comme dans l'Évangile, mais le sang des victimes, le sang des autres que le Seigneur a donc versé. Le retournement est aussi poétique. Tselan, les commentateurs l'ont tout de suite relevé, renverse ici les premiers mots de Patmos, l'hymne de Hölderlin. Nah ist und schwer zu fassen, der Gott, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Proche et difficile à saisir est le Dieu, mais au lieu du danger, croit aussi ce qui sauve. Chez Tselan, ce n'est pas le Dieu. Ce sont les hommes qui sont proches. Les hommes qui ne sont pas difficiles à saisir, saisis qu'ils sont déjà l'un par l'autre dans les convulsions de l'agonie. En ces lieux modernes du danger, par contre, ne croit aucun secours. Comme on le voit, la contre-parole du poème n'hésite pas à se tourner contre le Dieu même, le Dieu judaïque, au nom duquel les Juifs ont été massacrés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'en va de rien de moins dans cette confrontation que de la possibilité même de la poésie. Lier la parole du poème à la mémoire des morts, comme Tselan l'a fait depuis toujours, c'est faire de celui-ci un acte de piété. Cette piété, au vu de ce que nous venons de voir, ne saurait toutefois être tournée vers le Seigneur qui a laissé tout un peuple être détruit. Ce qu'Auschwitz a mis en question aussi, ce sont les présupposés théologiques de la parole, et notamment de la parole endeuillée auquel puise la poésie juive d'après 1945. D'où chez Tselan le besoin de se démarquer de tentatives en apparence proches de la sienne. Si Mandelstam est la figure d'identification majeure du poète à l'époque de la Niemandsrose, ce recueil fait également une large place à Nelly Sachs, à laquelle au moins trois poèmes font allusion. Il s'agit de « Zürich zum Storchen », Selbdritt, Selbdviert et de Die Schleuse, l'écluse. C'est à ce dernier texte que j'aimerais m'arrêter quelques instants pour conclure ce premier exposé. Die Schleuse a en effet la particularité de thématiser conjointement la mémoire des morts et la réflexion sur le langage nécessaire à dire cette mémoire. Die Schleuse. Über aller dieser deiner Trauer kein zweiter Himmel. An einem Mund, dem es ein Tausendwort war, verlor ich ein Wort, das mir verblieben war, Schwester. An die Vielgötterei verlor ich ein Wort, das mich suchte, Kaddisch. Durch die Schleuse musste ich das Wort in die Salzflut zurück und hinaus und hinüber zu hätten. Jiskor. L'écluse. Sur tout ce deuil qui est le tien, pas d'autre ciel. À une bouche pour qui c'était un mot entre mille, j'ai perdu un mot qui m'était resté. Sœur. Aux idoles sans nombre, j'ai perdu un mot qui me cherchait. Kaddish. À travers l'écluse, j'ai dû faire passer le mot pour le sauver en le plongeant au flot salé, en l'en sortant, en le lui faisant franchir. Yiscor. Un brouillon de ce poème, daté du 13 septembre 1960, est intitulé Stockholm, Linnégatan, Tolv. Il permet de comprendre que référence est faite au voyage que Celan entreprit au début de ce mois pour rendre visite à Nelly Sachs, dont il avait fait la connaissance à Zurich quelques semaines plus tôt. Nelly Sachs, qui souffrait de délires de persécution, était toutefois retiré dans un asile psychiatrique au moment de ce voyage et ne consentit pas à le voir, selon certains, pour l'épargner. Le voyage témoigne de l'affection et de la sollicitude que Celan éprouvait pour Nelly Sachs. Le poème, écrit à son retour à Paris, montre toutefois comment cette sollicitude s'accompagne d'une attitude critique qui porte sur le langage qu'il a en commun avec la poétesse. Le dialogue entre les deux poèmes, entre les deux poètes, j'emploie le mot dialogue dans la mesure où le premier poème consécutif à leur rencontre, Zürich zum Storchen, décrit celle-ci comme un dialogue. Le dialogue prend naissance sur le fond d'une opposition. Pour Celan, contrairement à Nelly Sachs, il n'y a pas d'autre ciel, pas de seconde transcendance planant au-dessus du deuil des morts. L'affirmation initiale du premier groupe de vers a valeur de constat dont le reste du poème découle. La différence est posée comme condition du dialogue. Partagée, la douleur n'est pas vécue sous la même égide. La ligne de pointillés marquant une pause désigne aussi l'espace de l'opposition. Le refus de l'illusion d'un deuxième ciel va de pair avec un rapport à la langue qui soumet celle-ci à un examen critique différencié. L'accusation reste implicite, elle n'en est pas moins réelle. En disant qu'il a perdu le mot « sœur » à une bouche pour laquelle il s'agissait là d'un « tausendwort », d'un mot employé sans réflexion, Celan reproche en fait à Nelly Sachs d'accorder du broude, du frère, d'une manière irréfléchie, à trop de personnes qui ne le méritent pas. Celan, pour qui depuis ses débuts le mot Schwester, sœur, a une connotation presque magique, perd ce mot par le fait que cette Nelly Sachs, qui lui écrit en lui disant frère, dévalorise l'appellation en l'accordant à trop d'autres d'une manière trop facile. La correspondance entre eux permet de comprendre que le reproche vise en fait la sympathie que l'habitant de Stockholm accorde à certaines personnes qui ont pris position contre Celan dans l'affaire Goll. Je rappelle que Claire Goll, la veuve d'Ivan Goll, avait ignoblement accusé Celan d'avoir plagié des poèmes de son mari défunt. Cette calomnie, à laquelle la veuve n'hésita pas à donner une forme officielle en répandant dans des journaux allemands des pseudo-preuves de manuscrits qu'elle avait en vérité manipulés après la mort de son époux, secoua si profondément celui pour qui la poésie était, comme nous l'avons entendu la définir, souffle, c'est-à-dire direction et destin, qu'elle le plongea dans une crise dont il ne se remit jamais vraiment. Faut-il penser que de cette pluralité de frères qui entraîne la perte du mot sœur, le poème étant le reproche à une conception trop polythéiste ou trop idolatrique du Dieu ? Ce qui est sûr, c'est que sémantiquement, la Vielgötterei, ce que j'ai traduit par « les idoles sont nombre », répond à « tausend Wort ». La perte du Kaddish est à comprendre sur le fond de la différence. Le Kaddish, la prière juive des morts, ce dont Celan dit que c'était un mot qui le cherchait, devient imprononçable. C'est judaïsme contre judaïsme. Celui de Celan ne peut plus se comprendre à l'intérieur d'une attitude religieuse qui récuserait, ne peut plus se comprendre à l'intérieur d'une attitude religieuse qui récuserait la dimension critique que nous avons vue à l'œuvre dans Ténébrés. Comme l'écrit très justement Jean Bollack, je cite, « Le judaïsme de Celan ne peut être revendiqué. Aucune position doctrinale, ni juive ni chrétienne, ne retrouverait à travers lui une tradition théologique juive. La liberté qu'il exige si âprement n'est pas incompatible avec le rôle qu'il a fait tenir dans sa poésie en terre allemande à l'histoire intellectuelle juive, laïque et religieuse indistinctement, sans qu'il fût croyant, comme Nelly Sachs dit qu'elle l'est. » Fin de citation. au Kaddish qu'il avait peut-être entendu dans la bouche de Nelly Sachs, il va opposer un mot, Yiskor. Yiskor, en hébreu, cela veut dire qu'il se souvienne. L'enjeu du dialogue est bien la mémoire des morts. Mais cette mémoire, pour Tselan, doit passer par l'écluse. L'écluse, le mot a un référent géographique immédiat dans le fait qu'au centre de Stockholm, une écluse sépare l'eau salée de la mer Baltique des eaux douces du fleuve qui traverse la ville. L'écluse est ici un autre terme pour ce que dans Sprachgitte, il nommait Engführung, la strette. Le poème doit en quelque sorte rejudaïser un mot hébreu en l'intégrant à un allemand qui serait à proprement parler un allemand juif. Cet allemand juif est l'allemand qui, selon les mots du discours de Brême, a dû traverser son propre manque de réponse, traverser un mutisme effroyable, traverser les mille ténèbres des discours porteurs de mort, qui a dû traverser ce passage pour, enfin, ressurgir au jour. Cet allemand est celui d'une contre-parole qui est le mode nécessaire que l'histoire lui a imposé. La notion que j'ai placée aujourd'hui au centre de mon exposé était bien, j'espère vous en avoir convaincu, la notion à partir de laquelle il convient de situer l'horizon de la poésie de Tselan.